Nicolas Balic signe l'adieu au pays.
Le dernier ouvrage du journaliste et historien Nicolas Balic est bouleversant. L'adieu au pays nous plonge dans la vie quotidienne d'une famille de Barles pendant la guerre de 14-18. Des quatre frères partis au front, un seul en réchappera. 38 noms des morts pour la France sont inscrits sur le monument communal, 38 sur 140 villageois mobilisés. Les nombreuses lettres envoyées par les soldats à leurs mères restées à Barles sont poignantes, à l'image de l'issue dramatique du conflit. Grâce au prêt de ces lettres par Claude Payan, le maire de Barles, Nicolas Balic retrace les parcours semés d'angoisse et de confiance de ces basalpins dans la tourmente. Des paysans attachés à leur terre et à leurs proches, soucieux de l'avenir de la ferme familiale qu'ils ont quittée. Les Lédés et les Barlatans paieront un lourd tribut à la Grande Guerre. Les échanges épistoliers sont instructifs, donnant un éclairage particulier à la préparation militaire ou la vie quotidienne dans les tranchées. La préface de Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, et le préambule de Nicolas Balic replacent ces lettres dans leur contexte, puis elles apparaissent sans autre ajout que la date et la signature. Dimanche 20 août, l'auteur rendra ses courriers au maire du village et partagera ses histoires avec les Barlatans d'aujourd'hui. Il est présent aussi ce soir à Seyne-les-Alpes pour une causerie sur le sujet. Je vous propose d'écouter Nicolas Balic en vous précisant que l'adieu au pays est publié aux éditions Jean-Marie Desbois. Nicolas Balic, vous publiez L'adieu au pays, et c'est un livre qui est tout simplement la correspondance de guerre de quatre soldats basalpins. Pourquoi vous êtes penché sur cette famille de Barles et cette période très particulière?
En la période particulière, bon, moi je suis journaliste, par ailleurs reconverti en historien militaire, alors historien d'occasion on peut dire. Je travaille depuis pas mal d'années sur les deux conflits mondiaux, l'histoire militaire bien sûr, mais surtout sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, avec peut-être plus de connaissances, d'outils sur le Second Conflit mondial, dans le cadre de la préparation d'une thèse qui n'est pas achevée aujourd'hui. Et je dirais de manière beaucoup plus affective à le rapport qu'on a tous les Français avec des familles qui ont participé à cette boucherie qui était la Première Guerre mondiale, travaillant sur ces deux sujets et sur la guerre de 14, qui est la matrice du XXe siècle qui va entraîner le second conflit, donc tout est lié dans l'histoire, qui arrive en pleine Troisième République, après cet esprit de revanche face à l'Allemagne, des grandes puissances. Étant provençal, je suis Martégal, mon port d'attache aussi dans les Alpes, c'est la région de Seyne. J'avais déjà commencé un travail sur Martigues pendant la Grande Guerre, qui sera publié d'ailleurs l'année prochaine. Et j'avais eu idée de faire un travail similaire sur le canton de Seyne. C'est 8 communes, hein, Seyne, Saint-Jean-Montclar, Auzet, Barles. Et en me rendant à Barles, j'avais été très impressionné, très ému par le nombre de noms, le nombre de morts portés au monument. 38 noms. Pour un village qui comptait moins de 500 habitants, je me disais, c'est pas surprenant, c'est pas le seul village, hein, le département le français le plus touché est la Lozère. On est toujours sur les départements ruraux, ce sont les paysans qui ont supporté l'essentiel du poids de la guerre, qui était une guerre de piétaille, une guerre d'infanterie, une guerre longue, alors qu'on l'imaginait courte. Joyeuse, certainement pas, on le savait, et on pensait qu'on serait sur une guerre de mouvement rapide. Elle va durer 51 mois. Et les villages ont payé un lourd tribut. Donc je voulais essayer de comprendre pourquoi ce village avait eu tant de morts. Il y a plusieurs explications, j'ai donné la première. Ce sont des paysans qui partent. Les paysans sont peu instruits. Ils n'ont pas beaucoup de chances de se retrouver détachés dans l'industrie, les transports. Ils n'ont pas de grade. Il faut pas oublier que les officiers, ce qu'on appelle les officiers de contact, capitaine, lieutenant, ont eu des pertes supérieures à celle des soldats, des fantassins. Mais on avait peu de chance lorsqu'on était un paysan peu instruit, quoique pratiquement tous avaient un niveau de certificat d'études. Ça, c'est une autre chose que j'ai découverte, niveau d'instruction 3 sur 5. Je ne sais pas si aujourd'hui nos enfants de 5e auraient un même niveau d'orthographe. On en parlera sur la correspondance. Donc, première explication, paysan peu instruit, envoyé souvent donc à l'endroit où ça bardait. Deuxième explication, ils ont été dans des régiments, je pense que c'est des régiments que les gens de la région connaissent, le 163e de Nice, le 3e bien sûr de ligne et 203e d'infanterie qui cantonnait à la caserne des Michel à Digne, l'actuelle mairie, qui étaient des régiments qui ont quand même été éprouvés. Et puis il y avait bien sûr les bataillons de chasseurs, puisque le département des Alpes-de-Haute-Provence, les Basses Alpes comme les Alpes-Maritimes, fournissait aussi pas mal de chasseurs à ces bataillons de chasseurs à pied, puis chasseurs alpins. Donc lorsque j'ai commencé à travailler sur ces 38 noms. J'ai rencontré bien sûr Claude Payan, je le remercie ici, et qui m'a dit « mais j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser ». Et il est allé me récupérer une boîte en fer. Il me dit « on a trouvé ça il y a 3 ans ». lors de la vente d'une maison du centre du village. Hein, le centre du village de Barles, c'est pas très grand. Barles, c'est marqué aussi par ses hameaux, où il y avait plus de la moitié de la population. Bref, il me dit, si ça peut être intéressant, je vous la confie, vous voyez ce que vous pouvez en faire et vous me direz ce que vous en pensez.
C'est donc dans l'univers d'une famille basalpine que vous plongez, la famille Lédé à Barles, une famille où il y a 4 garçons et dont 3 ne reviendront pas de la Grande Guerre.
Oui, déjà, ils sont orphelins de père. Leur papa, Jean Bénonin, est tué alors qu'il surveille ses brebis foudroyées, en laissant donc sa femme veuve avec ses 4 garçons. Les 4 vont être mobilisés. L'aîné, c'est Maxime, et il a vécu un temps au Mexique. C'est un Mexicain comme on connaît ceux de Barcelonnette. Ceux de Barles sont un peu moins connus, mais il y a eu pas mal de gens dans nos vallées qui sont partis ou au Mexique ou en Californie. Le second, c'est Félix. Félix est berger aussi, passe une partie de l'année, alors c'est amusant, à Saint-Julien-les-Martigues, c'est ma ville. Le reste du temps, bien sûr, dans les alpages de Val-Haute, au-dessus d'Auzet et de Barles. Le troisième, c'est Germain, il est instituteur, donc c'était assez rare, mais ça arrivait dans des familles de paysans. Et il est au moment de la déclaration de la guerre sous les drapeaux, il est dans l'active. Puis le plus jeune, c'est Odilon, qui va devenir chasseur au 64e bataillon de chasseurs alpins de Villefranche, et qui, lui, n'aurait pas dû partir d'après ses frères. Et finalement, c'est un destin foudroyé, parce que sur les 4, seul l'aîné va revenir. Félix est tué très rapidement au mois de décembre en Belgique. Germain est tué en janvier 16 à Fliré, où 7 ou 8 barlatans ont été tués. C'est incroyable de penser qu'il y a eu des endroits comme ça, comme des aimants spatio-temporels, où à une période, des garçons d'un village étaient tués. Et puis Odilon, lui, il est tué à un endroit qui est resté célèbre, c'est le chemin des Dames. Il est tué à Crane, on dit Craon, mais les habitants de l'Aisne disent Crane. C'est l'extrémité est du chemin des Dames, on ne retrouvera pas leur corps. Seul Germain est enterré, lui, à Fliré, à la nécropole nationale, mais ce qui veut dire que leur maman n'a pas vraiment pu faire son deuil. Elle n'est pas la seule en France. Et ça, c'est un aspect que je trouve aussi émouvant.
Et la maman, c'est Honorine qui reçoit les lettres et qui envoie aussi des lettres, on le suppose. Elle reçoit des lettres aussi avec des amis, des voisines, des cousines, etc. Il y a les femmes qui sont restées au village.
Je regrette que nous n'ayons pas eu la correspondance d'Honorine elle-même. Hein. Elle est partie avec ses soldats, hein, dans leur capote ou dans leur besace. On a effectivement les lettres des 4 frères, les 4 fils, ils écrivent à leur maman, alors toujours avec beaucoup d'attention, on ne veut pas l'inquiéter. Et puis il y a la censure. Il faut savoir que le courrier est soumis à la censure, il ne fallait pas en dire trop dans les lettres. Et puis elle reçoit effectivement aussi quelques courriers de cousines de la Javie qui vont prendre soin des garçons en disant il faut leur envoyer des pulls, des écharpes, parce que eux ils sont habitués, hein, à Barles, on n'a pas froid. Pour eux, la Meuse, etc., c'était pas difficile, la pluie un peu plus. Donc on va envoyer des choses qui font plaisir, qui rappellent le pays. Et ce qui est important, c'est que j'ai découvert, enfin on le sait, mais que je crois qu'une des raisons pour lesquelles ces soldats ont tenu, parce que ça paraît inimaginable qu'ils aient tenu dans les conditions dans lesquelles ils étaient, le courrier a joué un rôle important. Il y avait la camaraderie entre les soldats, on se soutenait. Il y avait bien sûr un certain patriotisme, hein, le matraquage que fait la Troisième République sur ses enfants à l'école, sur l'Alsace et la Lorraine qu'il faut rendre à la France, qui a été arrachée par l'Allemagne. Mais il y a l'esprit de camaraderie qu'on va retrouver à travers les lettres. Et puis le fait de pouvoir garder le contact, même si les lettres passent pas toujours très bien, le courrier met du temps, il s'inquiète, on le voit dans la correspondance, ça fait 4-5 jours, 17 jours que je n'ai rien reçu. Ce courrier, c'est un bol d'oxygène dans l'irrespirable des tranchées.
Avec les frères qui se retrouvent sur le front de temps en temps et qui se cherchent aussi en fonction des régiments et des bataillons dans lesquels ils sont mobilisés. Il y a 2 profils qui sont particuliers. Évidemment, Odilon, parce que c'est le petit dernier de la famille, c'est la prunelle des yeux de ses grands frères, et malheureusement, il y restera. Et puis, c'est Germain, je crois, c'est l'instituteur, qui est l'instituteur de gauche, entre guillemets, comme on pouvait l'entendre à cette époque-là, et qui remet en cause aussi tout le langage particulier de l'état-major.
Ce qui est étonnant chez Germain, effectivement, c'est le hussard noir. Hein. Il est formé à l'école d'institut, il est à Avignon. À l'époque, les filles étaient à Digne et les garçons étaient à l'école normale d'Avignon. Il se dit, je suis pacifiste, je suis de gauche. Mais il y a une transformation qui va se faire. La guerre ne met que quelques semaines à le transformer et il le dit lui-même, je ne me reconnais pas. Par exemple, il assiste à l'exécution sommaire, donc ça veut dire sans jugement, parce qu'il y en a eu beaucoup en 14, c'est pas 17 les exécutions. Hein. Et il dit, j'ai pitié de cette famille, et en gros, il justifie. Donc, il comprend plus, il reste pacifiste, mais pour lui, un soldat qui s'est mutilé volontairement à la main, c'est un traître. Donc, il critique pas tant que ça. Hein. Il se met vraiment au pli. En plus, il est officier, hein. il est lieutenant. Mais c'est étonnant parce qu'il part à la guerre, effectivement, avec un peu de la critique sur tout ce qui sont les huiles, etc. Et finalement, il adhère complètement et il participe à cette guerre. Et c'est lui, parce qu'en fait, il y a deux des frères, c'est Germain et Félix, qui ont la chance d'être dans le même régiment, qui est le 163 régiment bien connu à Nice. Le drame, c'est que très vite, certains bataillons étaient séparés. Le bataillon de Félix va partir en Belgique. Celui de Germain va rester dans la Meuse. Et alors là, c'est un déchirement pour eux. Et le problème, c'est que lorsque le régiment... Bon, je vais pas trahir une partie du livre, hein, mais lorsque c'est un des moments les plus émouvants de la correspondance, lorsque le régiment est regroupé de nouveau, Germain part sur la route rencontrer les soldats de la compagnie de son frère. Et moi, j'en ai encore des frissons parce qu'il croise des soldats qui connaissaient le lien de parenté entre les deux, qui lui disent « Non, t'inquiète pas, il est juste blessé ». Et ceux qui ne le connaissent pas, quand il dit « Vous connaissez un certain Léidé ?» Il est mort. Et il raconte sa solitude, sa souffrance, sa douleur après la disparition de son frère. Et ça, c'est pour ça que je dis que ce livre, c'est une histoire à hauteur d'homme. C'est pas les grandes batailles qui sont intéressantes. Elles sont intéressantes aussi, les grandes stratégies. La Grande Guerre, on peut l'apercevoir, à mon avis, de manière complète lorsqu'on l'aborde à hauteur d'homme, comme dans cette correspondance. Même si elle a rien de... C'est une correspondance ordinaire. Hein. On demande des nouvelles du cochon qui finira en saucisson et en jambon. On veut savoir si un animal va bien. Quand ils comprennent que la guerre va être longue, ça s'exprime comment ? Ben, ils disent à la maman, ils ont une ânesse qui fait les travaux des champs. Il faut que tu vendes l'ânesse. Ça veut dire qu'en gros, on ne travaillera plus la terre.
C'est une plongée dans une époque et évidemment dans un moment particulier de l'histoire de France. Je suppose que un petit peu partout en France, il y a eu des Léidés et des familles comme cela qui ont été morcelées et chahutées, chamboulées à cause de cette effroyable guerre.
Il est rare d'avoir des familles, des fratries qui sont revenues entières, c'est arrivé. Mais on a un cas... En Alsace, hein, l'Alsace, enfin la partie non occupée, on a le cas d'une famille où les cinq frères sont tués. On a des cas où le père de famille, qui est un des classes de territoriaux, va être tué, parce que les territoriaux, normalement, c'était les plus âgés restés à l'arrière, mais on a tellement besoin d'hommes, c'est une guerre qui mange la piétaille, qui mange les hommes. On arrive à pratiquement 1 500 000 morts français. 1 700 000 Allemands, ça paraît incroyable. On a une journée qui est symbolique et qui, nous, dans cette région, reste importante. C'est ce qui s'est passé le 22 août à Dieuze, en Lorraine. 27 000 soldats ont été tués en une journée sur des commandements complètement déments de l'état-major qui a envoyé des soldats, alors c'est le fameux pantalon Garance, jeter baïonnette au canon, en carré serré, face au feu allemand, face à ce qu'on appelait le feu qui tue. Et le dramatique dans cette histoire, c'est que le sénateur Gervais de la Seine a accusé les soldats du Midi, qui étaient regroupés sous le 15e corps d'armée, de s'être déballonnés devant l'adversaire. C'est une calomnie totale et qui va coller à la peau et à la boue de la capote des soldats pendant toute la guerre. Et ça, c'est peut-être aussi des histoires terribles comme ça. Quant aux fratries, effectivement, il était à Barle, par exemple, je crois qu'il y a de mémoire 4 familles qui ont 3 enfants tués. Frères, c'était des cousins, il faut imaginer donc la maman Honorine qui avait déjà perdu son mari et qui va se retrouver seule et qui n'a que son fils, qui va rester avec elle, qui va devenir mère de Barle d'ailleurs dans les années 30 et qui restera pratiquement jusqu'à la mort de sa mère à Barle parce qu'il pouvait pas faire autrement et qui après va aussi quitter Barle pour s'installer en Basse-Provence.
3 ou 4 générations après, autrement dit aujourd'hui, un siècle après cette hécatombe, vous allez prendre votre bâton de pèlerin avec l'adieu au pays, avec votre livre, pour aller tout simplement rendre les lettres de ces soldats au village de Barle. Ça va être un moment émouvant pour vous.
Oui, et puis j'espère pour les Barlatans, parce que cette histoire a commencé en 2013 avec la remise de ces lettres. Le soir même, ça je vous l'ai pas dit, quand je suis arrivé au Vernet, puisque je résidais là-bas, j'avais posé ce tas de lettres. Et puis vers minuit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et à 5h du matin, j'étais en train de trier par soldats, donc je commençais dans la nuit à connaître un peu leurs écritures, etc. Et ça m'a un peu saisi, cette correspondance. J'avais pas pensé en faire un livre. C'est après, en contactant Jean-Marie Desbois, qui m'a dit, moi je marche avec toi, qui a lu la correspondance, etc. Donc le livre est sorti donc au mois de juin. Il a été présenté une première fois à Digne et je serai ce mercredi à Seine-les-Alpes à la citadelle Vauban, si des habitants de la vallée de la Blanche veulent venir dans ce cadre magnifique du fort Vauban de Seine, je présenterai le livre à Seine. Mais surtout dimanche je remettrai officiellement les originaux des lettres que j'ai avec moi ici au maire de Barle et je pourrai échanger avec les Barlatans. Déjà je crains des critiques qu'on me dise que, parce que j'explique aussi dans ce livre l'histoire du pays, je me suis peut-être trompé sur un sentier qui allait de Barle à Digne, mais surtout échanger avec eux parce que j'ai déjà eu des contacts avec des familles de ces soldats qui ignoraient tout de ceux dont je donne le nom avec les états de service à la fin du livre, ce qui est un des intérêts du livre, le principal étant bien sûr la correspondance. Donc ce sera dans l'après-midi à Barle, hein, pour tous les gens du département connaissent. C'est une journée de fête, je crois, et je suis heureux que ça intervienne au moment où l'ambiance sera plutôt festive, avec une mini-exposition d'objets de tranchées. Et bien sûr, je présenterai les originaux des lettres aux habitants.